Éphésiens 5. Nous continuons donc la méditation que nous avons commencé la semaine passée sur Éphésiens chapitre 5 et le verset 18. Mais pour avoir le contexte, nous allons remonter un tout petit peu dans le texte et nous allons commencer notre lecture au verset 15. Voici ce que Dieu nous dit dans sa parole. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La semaine passée, nous avons vu que l'apôtre nous commande, Dieu nous commande par l'apôtre à être remplis de l'Esprit. Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y a deux sortes de plénitude de l'Esprit. Il faut bien les distinguer. Dans le livre des Actes, il y a le mot « pamplémie » en grec qui est utilisé souvent pour parler d'une afflux soudain de l'Esprit-Saint, quelqu'un comme Pierre devant les autorités qui est subitement rempli de l'Esprit et il parle. Et ce mot est toujours utilisé pour une plénitude extraordinaire que tout le monde ne reçoit pas, qui n'est pas une plénitude habituelle, qui est pour un moment et une tâche qui est de rendre témoignage à Jésus-Christ. Nous devons prier que le Seigneur nous donne de ces afflux extraordinaires. On les cherche, on les veut. Mais il y a aussi une plénitude qui n'est pas ponctuelle, mais qui est habituelle dans la Bible, et ce n'est pas pamplemie, c'est plérou, qui est toujours et sans exception utilisé pour parler de Barnabas était un homme rempli de l'Esprit. Étienne était un homme rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse. Et dans ce texte que nous avons devant nous, soyez habituellement rempli de l'Esprit. Nous avons vu que le commandement en grec est dans le présent continuel. Nous pourrions traduire soyez toujours en train d'être rempli de l'Esprit. Et donc nous avons mis beaucoup d'insistance sur le fait que la plénitude de l'Esprit et pour maintenant, et pour maintenant. Nous avons vu que même le commandement, bizarrement, est un commandement dans l'impératif passif. Soyez remplis de l'Esprit. Nous ne sommes pas la personne qui fait l'action. C'est l'Esprit qui nous remplit. Mais nous sommes commandés d'être remplis par quelqu'un d'autre. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut obéir à un commandement passif ? C'est comme une maman essaie de soulever son enfant qui ne veut pas et le papa dit « Laisse ta maman te soulever. » Et il commande l'enfant non pas de faire quelque chose, mais de laisser faire. D'accord ? Et donc, « Soyez remplis de l'Esprit » sous-entend, tout comme le commandement du papa sous-entend que maman est déjà en train d'essayer de te soulever, sinon tu ne peux pas obéir au commandement qui dit « Laisse ta maman te soulever si ta maman n'est pas en train d'essayer de te soulever. » Et de la même manière, ce commandement « Soyez rempli de l'Esprit » sous-entend que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, est déjà en train de travailler pour te remplir. Soyez, laisse-le faire. Et nous avons compris que la plénitude de l'Esprit n'est pour le chrétien qui en est devenu assez bon la pensée de beaucoup. La plénitude de l'esprit n'est pas le signe que je suis un chrétien élite. La plénitude de l'esprit est une indication de la grandeur du calvaire. Pentecôte me montre combien Jésus m'a mis vraiment sur la faveur de Dieu. Combien je suis droit, combien je suis quelqu'un qui a droit à toute la bénédiction, qui vit sur toute la bénédiction de Dieu. Donc, la plénitude de l'esprit, ce n'est pas quand le 3 explose, c'est quand le plafond s'écroule. C'est-à-dire, c'est quand je prends ma place comme pécheur nécessiteux qui a justement besoin dans le maintenant de tous mes moments d'être rempli, ça veut dire guidé et travaillé et sanctifié par Dieu le Saint-Esprit. Nous avons donc vu qu'il y a un premier moyen d'être rempli de l'Esprit et des moyens secondaires. Le moyen primaire ou principal, c'est simplement de croire à l'Évangile. Galates chapitre 3, Paul dit aux Galates que est-ce par la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par l'entendement de la foi? Il veut dire, vous avez cru à l'Évangile du Christ crucifié et vous avez été rempli de l'Esprit. C'est lorsque je crois dans le Christ, dans le sang me pardonne, me réconcilie à Dieu, que je commence à vivre cette réalité par l'Esprit. Et maintenant, donc ce matin, nous voulons parler un moment des moyens secondaires pour être rempli de l'Esprit. Un seul moyen principal pour avoir l'Esprit et pour être rempli de l'Esprit. Mais une fois que je suis rempli de l'Esprit, il y a plusieurs moyens de me maintenir dans cette vie. D'accord? Comme je crois que j'ai dû dire dimanche passé qu'il y a un seul moyen de monter un cheval. Mais il y a plusieurs choses qu'on doit faire une fois qu'on est sur le cheval pour rester dessus. D'accord? Ok, c'est un peu comme ça. Je suis rempli de l'Esprit en croyant au Christ crucifié. Mais, donc il y a plusieurs choses que je fais pour garder de pas avec l'Esprit, pour coopérer avec l'Esprit qui me remplit. Donc, le premier moyen. Donc, coopérez avec l'Esprit que vous remplit en vivant une vie de repentance. Je dirais presque coopérez avec l'Esprit en acceptant sa procédure. La procédure d'une femme ou d'un homme qui vit une vie remplie de l'Esprit, c'est une vie de repentance. Ayant les prémices de l'Esprit, nous gémissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que être rempli de l'Esprit ne veut pas dire que je suis parfait. Loin de là. Ayant que les prémices de l'Esprit, dit Romains 8, je gémis. C'est-à-dire, je reconnais que je ne suis pas encore arrivé. Parce que je suis en train d'être rempli, je ne suis pas totalement rempli. Quand je remplis un ballon, il est rempli d'air, mais si je suis en train de le remplir, ça veut dire qu'il doit être plus rempli. Et le chrétien rempli de l'Esprit est le chrétien qui constate par le travail de l'Esprit de plus en plus combien il a besoin de se repentir. Je vous ai parlé du réveil spirituel des années 30 et 40 dans l'Afrique de l'Est. Et les chrétiens, dans ce réveil, on dit qu'ils avaient compris que la vie en Christ n'était pas une vie de conquérir le péché complètement, mais d'une vie d'être constamment conquis par Christ qui nous ramène à la repentance, qui nous amène de jour en jour à prendre notre place au pied de la croix, contrit, en disant « Seigneur, pardonne-moi ». Ça, les amis, cette vie de repentance, c'est le moyen de rester rempli de l'Esprit. Un des hommes sans doute rempli de l'Esprit d'une manière extraordinaire dans l'histoire de l'Église, c'était George Whitefield, le grand évangéliste du réveil du 18e siècle. Whitfield a dit ceci une fois. Il dit, quels que soient les accomplissements dont d'autres se vantent, je peux dire ceci, que malgré par le fait de la grâce souveraine, riche et libre, j'ai été capable depuis 19 ans de dire à Dieu, tu es mon Père, j'ai été aussi capable de dire à la corruption, tu es ma sœur. Voilà un homme rempli de l'esprit. Intéressant, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il est rempli de l'esprit? Comment est-ce qu'on le stade? Par une telle manière d'être ramené à l'esprit, à la repentance constamment. Voilà un papa chrétien qui ne demande jamais, un mari, un papa chrétien qui ne demande jamais pardon à sa femme, ni à ses enfants. Et voilà le signe qu'il n'est pas en train de vivre dans la plénitude de l'esprit. Voilà un mari et un père chrétien qui doit revenir sans excuse à sa femme et dire que cette parole, cette attitude était vraiment un péché. Pardonne-moi. Et là, nous avons l'indication que cette personne est sous la conduite de l'Esprit Saint. Qu'en est-il de nous? Nous pouvons dire tout ce que nous voulons au sujet des grandes expériences de l'Esprit Saint, mais si nous ne sommes pas des gens qui font cela, qui nous humilient, il n'y a rien. D'ailleurs, ces grandes expériences, soi-disant de l'esprit, sans cette vie de repentance, sont une contrefaçon. Deuxièmement, nous devons coopérer non seulement avec la procédure de la vie de l'Esprit Saint, qui est une repentance constante, mais aussi nous devons coopérer avec sa préoccupation. Quelle est la préoccupation de l'Esprit Saint quand il vous remplit? Eh bien, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons lire un passage au sujet de l'esprit, chapitre 3, versets 17 et 19, 18, pardon. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétant, mauvaise traduction, ça devait être contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les versets suivants nous l'indiquent. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a un jeu de mots entre Seigneur et Esprit, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Mais ce que nous savons, c'est que là où est l'Esprit, les hommes et la femme ont la préoccupation tournée vers Jésus-Christ. Et nous contemplons sa gloire dans sa venue, dans sa divinité, dans ses miracles, dans sa vie parfaite, dans ses souffrances, dans sa mort à la croix, dans sa résurrection, dans son couronnement à la droite de Dieu, dans son retour glorieux. C'est le Christ qui nous fascine, qui nous attire. La vie remplie de l'Esprit n'est pas une vie préoccupée par l'Esprit Saint. Dans certains milieux, vous avez des gens qui parlent tout le temps de l'Esprit, 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 l'Esprit. C'est un signe sûr que l'Esprit n'est pas présent. Parce que la Bible nous dit que là où est l'Esprit, il y a des gens tournés vers Jésus-Christ le crucifié. Nous revêtons non pas l'Esprit, la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Nous ne sommes pas conformés à l'image de l'Esprit. La Bible nous dit que nous sommes conformés à l'image de Jésus-Christ. Et dans le chapitre 3 d'Éphésiens, lorsque Paul prie que nous soyons fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs. Intéressant. L'Esprit n'est que l'agent pour former en Christ en nous. Nous avons été appelés, dit Paul en Romains 1, vous avez été appelés à la communion de Jésus-Christ, ou la communion avec Jésus-Christ. L'esprit est l'agent par lequel moi et Christ, on est mariés. Mais lorsque l'esprit est vraiment à l'œuvre, on pense vraiment à Jésus-Christ. C'est comme ça. Et donc, nous, vous et moi, nous devons faire attention de ne pas regarder notre nombril spirituel constamment, de nous regarder, regarder nos expériences, regarder nos affections, regarder, poser la question insensée constamment, est-ce que je suis rempli de l'esprit? Ça, c'est une moyen sûr de ne pas l'être, parce que je tourne mes regards trop vers moi-même. Nous vivons une vie remplie de l'esprit inconsciemment par une vie de repentance et de préoccupation avec Jésus-Christ consciemment. Lorsque les 72 sont revenus, vous vous rappelez, le Seigneur les a envoyés et ils sont revenus tout joyeux, remplis de joie au sujet de quoi? Au sujet du don de l'esprit qu'ils avaient. Ils ont dit, Seigneur, même les démons sont sujets à nous en ton nom. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il les a corrigés. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le ciel. Et les noms sont écrits au ciel comment? Par le sang de Christ. Le livre de l'agneau dans le ciel, dont la Bible parle en Apocalypse. Donc, ce n'est pas avec nos expériences spirituelles que nous nous occupons, mais avec Christ tel qu'il est présenté dans l'Évangile. Et juste un petit avertissement. Quand je dis, en tant qu'homme rempli de l'esprit, ou en tant que femme remplie d'esprit, moi et vous, nous sommes préoccupés par Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans l'Évangile, tel qu'il est dans toute sa plénitude. Je ne préoccupe pas de Christ dans la mesure où je le ressens. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ressens ou j'expérimente tellement peu de Jésus-Christ. Mon Sauveur est ce qu'il est dans toute sa plénitude, en dehors de moi. Et ce n'est pas le au-dedans de moi qui est ma préoccupation. Troisièmement, nous coopérons avec l'esprit qui nous remplit en cédant à sa direction morale. Regardez avec moi 1 Corinthiens 6, rapidement. 1 Corinthiens 6. Nous allons lire les versets 18 à 20. Fuyez l'inconduite, donc l'immoralité sexuelle, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Voilà la manière dont Paul pousse les Corinthiens à ne pas pécher. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même. Vous voyez, vous êtes un temple maintenant, et le propriétaire de la maison que vous êtes n'est pas vous. Votre personnalité humaine ne vous appartient plus. Vous avez été racheté à grand prix. Jésus-Christ est le propriétaire, et il envoie l'Esprit pour prendre possession des locaux. D'accord? Pour les arranger comme il les veut. Et c'est lorsque nous reconnaissons cette présence de l'Esprit en nous et qui est constamment en train de convoiter contre les désirs de la chair. L'Esprit veut m'amener, non pas à la convoitise sexuelle, mais à l'amour. Non pas au matérialisme, mais aux valeurs éternelles. Non pas à l'orgueil, mais à l'humilité. Et donc, lorsque je me laisse conduire par l'Esprit, lorsque je suis tenté, je cède à cette conduite. Je fais appel au Saint-Esprit, toi en moi, fais ce que tu veux, garde-moi du péché et que ta ligne de conduite soit ma ligne de vie. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dit Paul. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voulez être rempli de l'Esprit dans le maintenant? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par la colère, par l'amertume, par la malhonnêteté, l'exagération, par l'orgueil, par l'égoïsme, par tous ces péchés que nous avons. Parce que l'Esprit va vous sensibiliser de plus en plus à ces choses, n'est-ce pas? Et c'est pour justement pour que vous ne cédiez pas, vous ne vous donniez pas à ces péchés. Positivement aussi, attention, céder à coopérer avec l'esprit qui vous tire dans ce sens, c'est aussi quelque chose de positif. Je viens de parler du négatif. Mais regardez avec moi dans notre texte, les versets 19 à 21. Alors, revenez juste une seconde à Éphésiens 5. Je relis le verset 18 pour avoir le contexte et je lis comme c'est dans l'originel, en grec, avec ces participes verbales qui nous montrent que des choses suivent, sont produites par l'esprit. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant, parce que l'esprit vous guide dans ce sens, vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu, en vous remplissant, est toujours en train de vous tirer vers trois choses, les amis, trois choses positives. Premièrement, être un adorateur. Être un adorateur. Paul dit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur. Et donc, laissez-le faire. Donnez-vous à la louange dès le matin. Commencez votre journée par un acte de la volonté et vous allez voir que l'esprit s'y met en louant Dieu par des cantiques. Utilise ces cantiques. Franchement, je crois que le meilleur outil du culte personnel, à part la Bible, c'est un bon cantique. Prenez ces paroles, croyez-les, dites-les au Seigneur, louez son nom. Et vous allez voir que l'esprit, vous êtes en train de coopérer avec l'esprit de Dieu qui vous remplit de joie. Deuxièmement, rendez grâce pour toutes choses. Dieu, l'esprit, est toujours en train de vous tirer non seulement vers la louange à Jésus-Christ, parce que c'est là, louons le Seigneur est toujours Jésus-Christ dans la parole de Paul, mais deuxièmement, rendons grâce à qui? Dieu le Père. Voilà une vie trinitaire. L'esprit de Dieu. Je loue Jésus-Christ, je remercie le Père. Pourquoi? Pour toutes choses. Dans ma vie de tous les jours, il crée en moi une vie de gratitude et de confiance dans le Dieu qui chapeaute tout, qui gère toutes les circonstances de ma vie. Je lui remercie pour les bonnes choses, pour les souffrances, pour les épreuves qui sont dans sa main et qui sont en train d'être tournées vers mon bien. Par une main puissante et divine. Et donc, l'Esprit nous apprend à vivre dans une confiance et dans une gratitude constante. C'est formidable. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est la plénitude de l'Esprit quand vous voyez un homme ou une femme qui vit reconnaissant presque tout le temps. Parce que naturellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous inquiétons, nous nous plaignons, nous murmurons. Nous ne sommes pas confiants que telle chose est là, dans la main de Dieu. Mais lorsque l'Esprit nous remplit, il nous dit, tout cela est dans la main de Dieu. Tout cela est tourné vers ton bien. Remercie, remercie, remercie. Tout en travaillant pour changer certaines choses dans la vie, bien sûr. Et puis troisièmement, lorsque l'Esprit nous remplit, nous coopérons, en nous laissant aller dans la louange, dans la gratitude. Et aussi dans des relations fraternelles de soumission mutuelle. Personne ici n'est suffisant à lui spirituellement. Nous avons désespérément besoin les uns des autres. Et ça veut dire que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Nous devons écouter, nous devons nous parler les uns aux autres et avoir cette relation mutuelle du corps. Ok. Où est-ce que j'en suis? Je vais peut-être juste dire une chose de plus et puis pour le reste, je mentionne tout simplement où je serais allé si on avait le temps. Mais il y a une dernière chose qu'il faut que nous fassions si nous allons être remplis de l'esprit et coopérer avec cette plénitude de l'esprit dans le maintenant. Et ça, c'est le fait de coopérer avec, je ne sais même pas comment le dire, mais coopérer avec l'esprit en tant que seule puissance de la vie chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est une vie non pas de repentance, non pas d'obéissance morale, mais une vie de dépendance. Une vie de dépendance. Une fois, Dieu a parlé, deux fois, je l'ai entendu, que la force appartient à l'Éternel. Toute force spirituelle est à Dieu et non pas à nous. Une dame est allée à une conférence un jour, elle a dit à un des prédicateurs, je suis venu pour recharger mes batteries. Et le prédicateur a dit, chère madame, vous n'avez pas de batterie. Vous n'avez pas de batterie. Nous sommes dans, comme une maison dans laquelle le vent souffle. Nous n'avons que le vent. Le vent qui vient souffler et faire partir de cette maison la poussière. Et ce souffle, c'est le Dieu vivant et actif en nous. Ça veut dire que nous sommes incroyablement dépendants de lui à chaque instant. Pas un seul moment, pas une seule heure de la vie chrétienne ne peut être vécue de manière autonome parce que mes batteries sont rechargées, donc je peux y aller un moment. Ça ne peut pas arriver. Et dans la vie chrétienne, au fil des années, nous avons le sentiment de devenir de plus en plus faibles. Et la dépendance, c'est quoi? C'est la faiblesse embrassée. C'est la faiblesse acceptée. Paul a dit, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et la raison pour laquelle nous n'allons pas bien spirituellement, souvent, c'est que nous ne sommes pas assez faibles pour compter sur Dieu d'une dépendance vraiment, vraiment acharnée. Et Dieu a besoin, par mille manières, par des épreuves, de nous affaiblir, parce que c'est ainsi que nous coopérons avec l'Esprit. Il y avait dans la Chine un grand chrétien à la fin du 19e au début du 20e siècle, il s'appelait Watchman Nee. Tout ce qu'il enseignait n'était pas bien. Il y avait un ou deux points de sa théologie que je dois vraiment me soustraire de cela. Mais il ne faut pas, pour cela, dire que ce n'était pas un homme de Dieu. Et certaines des choses qu'il a écrites étaient extrêmement profondes. Et il a eu un bon ministère. Un jour, il dit qu'il était auprès d'un lac avec plusieurs chrétiens, plusieurs hommes chrétiens chinois. Et un des frères a commencé à se noyer dans le lac. Plusieurs entre eux ne nageaient pas bien, mais ils savaient tous qu'il y avait un maître nageur parmi eux. Watchman Nee dit qu'il a tout de suite regardé vers cet homme et l'a vu rien faire, rien faire, pendant un bon moment. Et le type se noyait, on voyait qu'il arrivait au bout de sa force. Et le maître nageur regardait tout simplement. Jusqu'au dernier moment où il a sauté dans le lac avec quelques mouvements rapides, il atteint le monsieur et il arrache et l'a sauvé. Quand tout était bien, après quelques moments, Watchman Nee est allé auprès de cet homme en privé pour le réprimander. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps? Et le maître nageur a dit, tu sais, nous sommes formés et enseignés ainsi. Parce que si nous allons trop vite et la personne a trop de force, en se débattant, il va s'accrocher à nous, et on va aller au front tous les deux. Et donc, il n'était pas assez faible. Il fallait que j'attende qu'il soit encore affaibli pour le sauver. Intéressant, n'est-ce pas, les frères et les sœurs? Et parfois, ça c'est notre problème. Nous ne coopérons pas. Nous nous débattons contre le péché par nos forces. Et nous devons lutter nous-mêmes contre le péché, mais dans la force du Seigneur. Si j'avais plus de temps, et je finis juste en mentionnant ces deux choses, je vous dirais que pour coopérer avec l'Esprit dans son action en nous, nous devons aussi utiliser ce que la Bible appelle, enfin la théologie appelle les moyens de grâce. Les moyens de grâce, c'est l'équipement de l'Esprit Saint. Vous saviez que l'Esprit Saint, il a un équipement pour travailler dans ta vie? Vous vous rappelez d'Éphésiens 6? L'épée, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. L'Esprit utilise des moyens et surtout la parole de Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est laisser la parole de Dieu demeurer avec toute sa richesse en vous. Donc vous devez vous exposer à l'Esprit en vous exposant à la parole de Dieu, en étant vraiment un chrétien très très attaché à la Bible. Il y a d'autres moyens de grâce aussi. Il y a la prière, il y a le culte chrétien, la communion fraternelle. Et vraiment, c'est tout ensemble que nous pouvons être remplis de l'Esprit. Ce n'est pas une affaire individualiste. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'au fur et à mesure que l'Esprit Saint nous remplit, il nous tire aussi dans sa mission. Et la mission de l'Esprit, c'est d'amener l'Évangile aux extrémités de la terre. Parce que rappelez-vous que l'Évangile n'est jamais quelque chose qui peut arrêter avec vous. Le salut, la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ, la vie éternelle comme un don, là, être aimé par Dieu pour l'éternité, c'est pas quelque chose que tu peux recevoir et puis ça s'arrête avec toi. Bon, j'ai ce qu'il faut, c'est bien. Non. L'Esprit nous pousse à aller vers d'autres, à amener plus loin, à nous soucier des nations non éteintes, à amener l'Évangile aux confins du monde. Et donc, c'est lorsque nous coopérons avec lui que nous nous mettons un peu dans la rivière de l'Esprit. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs moyens dont nous coopérons avec l'Esprit qui nous remplit. Que le Seigneur nous bénisse et que ce don merveilleux de Dieu qui est la troisième personne de l'Esprit, de la Trinité, nous habitant et nous remplissant, soit notre expérience de jour en jour. Nous allons chanter ensemble un chant qui parle de l'Esprit de Dieu. C'est dans le recueil bleu, c'est le 174, Esprit de Dieu.